France Inter.
Aujourd'hui dans Affaires Sensibles.
Et s'ils veulent absolument que je dorme en prison, je dormirai en prison. Mais la tête haute.
Eh bien voilà, c'est fait. Nicolas Sarkozy dort en prison depuis avant-hier. Jugé cette année dans l'affaire dite des financements libyens de sa campagne présidentielle de 2007, l'ancien président, reconnu coupable d'association de malfaiteurs le 25 septembre dernier, est condamné à 5 ans de prison ferme, 100 000 euros d'amende et 5 ans d'inéligibilité. Une condamnation retentissante qui provoque un séisme médiatico-politique. Une condamnation qui ne sort pas de nulle part, évidemment. Car durant 12 semaines, de janvier à avril de cette année, le tribunal correctionnel de Paris s'est longuement plongé dans ce que le parquet a qualifié d'affaire de corruption de haute intensité. Une histoire invraisemblable qui révèle des rencontres secrètes, une connivence certaine avec le régime libyen, des compromissions avérées de proches de l'ancien président français, le rôle trouble d'intermédiaires sulfureux ou encore l'existence de circuits financiers. Tous les ingrédients d'une affaire très sensible. Notre invité aujourd'hui, Fabrice Arfi, journaliste à Mediapart. Il est avec son confrère Karl Laske à l'origine des premières découvertes de cette affaire. L'un et l'autre ont couvert avec assiduité les 12 semaines de ce procès historique, ce qui n'est pas le cas de tous les journalistes. Affaires sensibles, une émission de France Inter, récit documentaire Gaspard Vallu, rédaction en chef Franck Cognard, chargé de programme Rebecca de Nantes, réalisation Juliette Gou.
Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter.
Vendredi 10 janvier 2025, Palais de Justice de Paris. Il y a foule ce jour-là dans la salle des pas perdus du tribunal. Ils sont des dizaines à se presser devant les portes de la 32e chambre correctionnelle, celle où les magistrats du PNF, le parquet national financier, traitent des affaires de grande délinquance financière. Tous espèrent trouver une place pour assister à la 3e journée d'audience d'un procès d'ores et déjà historique, celui de l'affaire des financements libyens de la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy en 2007. Après 2 jours consacrés à des questions de procédure, la présidente du tribunal, Nathalie Gavarino, s'apprête à donner pour la première fois la parole aux prévenus. Ils sont 13. Si 2 sont en fuite, 11 prennent place ce jour-là sur les strapontins qui leur sont réservés. Parmi eux, 3 anciens ministres, dont 2 anciens premiers flics de France, des intermédiaires sulfureux, un ancien dignitaire saoudien et surtout, un ancien président de la République, Nicolas Sarkozy. Très entouré, il pénètre dans la salle d'un pas assuré, mais affiche un sourire crispé. Récemment condamné de façon définitive dans l'affaire des écoutes que nous vous avons déjà racontée dans Affaires Sensibles, il est désormais un habitué des salles d'audience. Mais il sait parfaitement que cette affaire-là n'est pas comme les autres. Mise en examen pour corruption, détournement de fonds publics et financement illicite de campagne, il fait face également à l'accusation infamante d'association de malfaiteurs. Une première pour un ancien président de la République. Alors quand la présidente du tribunal l'invite à se présenter à la barre pour prendre la parole, Nicolas Sarkozy se lance dans un plaidoyer dont lui seul a le secret.
Madame la présidente, madame, messieurs, 10 années de calomnie, 48 heures de garde à vue, 60 heures d'interrogatoire, 10 ans d'enquête et maintenant 4 mois devant le tribunal correctionnel. Je vous remercie de me donner la parole, je répondrai comme je l'ai toujours fait. J'affirme devant votre tribunal que vous ne trouverez jamais, non pas un euro libyen, mais pas un centime libyen dans ma campagne. Je n'ai aucun compte à régler, et certainement pas avec l'institution judiciaire, dont je sais pourtant qu'une partie m'a violemment combattu lorsque j'étais président de la République. Je fais confiance, parce que je pense qu'il faut toujours faire confiance. Il faudrait savoir si c'est Bettencourt ou Kadhafi qui a financé ma campagne. On a trouvé quoi? On a la preuve de quoi? Il n'y a pas d'argent de la corruption parce qu'il n'y a pas eu de corruption.
S'il rejette avec force et virulence les accusations portées par les 3 procureurs du PNF, Nicolas Sarkozy sait que durant les 12 semaines à venir, il ne va pas pouvoir se dérober. Non, il va devoir répondre à la justice et être confronté à des faits qu'il n'a cessé de nier depuis près de 14 ans.
Tout d'abord, il faut que Sarkozy rende l'argent qu'il a accepté de la Libye pour financer sa campagne électorale. La première chose que l'on demande à ce clown, c'est de rendre l'argent au peuple libyen.
France Inter.
Nicolas Sarkozy en garde à vue depuis près de 24 heures. Sa voiture a quitté les locaux de l'Office central de lutte contre la corruption et les infractions financières cette nuit à Nanterre sans qu'on le voie à l'intérieur.
L'autre information importante, c'est la mise en examen de l'ancien président de la République Nicolas Sarkozy, notamment pour corruption passive. Et cette question, le colonel Kadhafi a-t-il financé en partie la campagne 2007 de Nicolas Sarkozy ? Je vis l'enfer de la calomnie, dit l'ancien chef de l'État. On y revient dans un instant.
Les premières accusations de financement libyen de la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy émergent en 2011, alors que Tripoli est sous les bombes d'une coalition internationale menée par la France. D'abord peu crédibles, ces soupçons prennent quand même corps au fil des révélations de Mediapart. En avril 2012, en pleine campagne présidentielle, c'est encore une fois ce journal en ligne qui révèle une note rédigée en 2006 par Moussa Koussa, le chef du renseignement extérieur du régime libyen. Un document en tête confirmant le déblocage de 50 millions d'euros en faveur de celui qui est alors ministre de l'Intérieur de Jacques Chirac. La suite, c'est plus de 10 ans d'une enquête journalistique d'abord, judiciaire ensuite, un scandale sans précédent dans l'histoire politique française. Et pourtant, comme le note le journaliste Fabrice Arfi, de Mediapart précisément, depuis les premières révélations, l'affaire des financements libyens de la campagne présidentielle de Sarkozy a essentiellement vécu à travers la force des démentis de l'ancien président.
Avez-vous, oui ou non, reçu de l'argent liquide de Libye pour financer votre campagne de 2007, comme l'a affirmé l'intermédiaire Ziad Takieddine, alors pas seulement dans les médias, mais à la justice française hier aussi.
Quelle indignité. Vous n'avez pas honte de donner écho à un homme qui a fait de la prison. Ce n'est pas l'idée, voyez-vous, que je me fais du service public. C'est une honte. Et je ne suis pas venu ici pour parler de politique. Je suis venu ici parce que je dois aux Français la vérité. Je n'ai jamais trahi leur confiance. Je veux que chacun comprenne que je suis blessé au plus profond de moi-même. Pas pour moi, je ne suis pas à plaindre. Mais pour notre pays. 8 ans après, rien, vous m'entendez ? Rien n'a été versé. Pas madame, un petit peu. Rien.
Des démentis qui tournent tous autour d'un argument, cette affaire est invraisemblable. Nicolas Sarkozy le dit lui-même, si une série télévisée avait envisagé un tel scénario, elle ne serait pas crédible. Selon lui, le dossier est vide, circulé, il n'y a rien à voir. Et il le répète avec force lors des premiers jours de procès. Mais il reste prudent. Dès la deuxième semaine d'audience, il esquisse un second axe de défense. S'il y a eu faute, c'est du fait de ses co-accusés. Lui n'a rien à se reprocher. C'est pas moi, c'est eux. Et alors que les questions de procédure sont enfin tranchées, le tribunal commence justement à se pencher sur le fond du dossier. Au cœur des discussions à venir ces prochains jours, une série de rencontres secrètes à Tripoli entre septembre et décembre 2005. Pour les enquêteurs, c'est l'instant zéro du pacte de corruption. Et il tourne autour de 3 hommes. Il y a d'abord Claude Guéant, le plus proche collaborateur de Nicolas Sarkozy au ministère de l'Intérieur, puis à l'Élysée. Il y a Brice Hortefeux, le meilleur ami depuis plus de 25 ans et ancien ministre de l'Intérieur. Entre les deux, il y a une figure de l'ombre, Ziad Takieddine, mort il y a tout juste un mois. Un personnage trouble qui fait office d'agitateur depuis le début de l'affaire.
Est-ce que M. Sarkozy sait pourquoi vous déposez cette valise ? Est-ce qu'il est au courant de ce qui est à l'intérieur ?
Ça, franchement, je vais vous dire, bien sûr. Oh, comment se fait-il qu'un type comme celui-là puisse prétendre encore une fois à la présidence de la République ? Ça va exploser. Je vous dis, ça va exploser.
À quoi j'ai menti ? Par contre, lui, c'est un vrai menteur. Et vous allez voir, il va passer son temps avec les juges d'instruction en train de dire « Non, c'est pas vrai », tout ça pour gagner du temps.
Intermédiaire sulfureux, déjà condamné par la justice dans l'affaire Karachi, Takieddine est en fuite au Liban à l'époque et depuis 2020. Sa place sur le banc des accusés reste donc vide. Dommage, car il est un personnage central de l'affaire des financements libyens. Une figure qui navigue depuis des décennies dans l'ombre de la droite française, à la frontière d'une certaine diplomatie parallèle et du monde des affaires. Il est suspecté par la justice d'être l'agent de corruption dans l'affaire et d'avoir facilité le rapprochement entre le clan Sarkozy et un haut dignitaire libyen, Abdallah Senoussi. Beau-frère de Kadhafi et chef des renseignements militaires du régime, Senoussi est aussi le cerveau qui se cache derrière la série d'attentats fomentés par la Libye dans les années 80. Condamné par contumace en 99 à la réclusion criminelle à perpétuité par un tribunal français pour l'organisation de l'attentat contre le DC-10 de la compagnie UTA, Abdallah Senoussi est un infréquentable. Et c'est peu de le dire. Pourtant, comme le révèle l'enquête, Claude Guéant d'abord et Brice Hortefeux ensuite vont le rencontrer dans le plus grand secret. Le premier en septembre 2005, le second en décembre. Et pour l'un comme l'autre, sans prévenir le Quai d'Orsay ni l'ambassade de France, sans traducteur et sans garde du corps, seul tiers présent aux deux rencontres, Ziad Takieddine. Les journalistes de Mediapart, Karl Laske et Fabrice Arfi expliquent dans le documentaire « Personne n'y comprend rien » ce qui semble se cacher derrière ces rencontres.
Cette visite, elle est très importante, cette visite préparatoire de Claude Guéant, parce que dans ses notes, Ziad Takieddine dit qu'elle doit revêtir un caractère secret.
Et par ailleurs, il est dit, voilà, on sera plus à l'aise pour évoquer l'autre sujet. Il y a fort à penser que l'autre sujet, c'est effectivement la question du financement de la campagne de Sarkozy.
Au mois de décembre 2005, le 22 décembre 2005 précisément, un intime de Nicolas Sarkozy, qui est Brice Hortefeux, le ministre des collectivités territoriales françaises, va, comme Claude Guéant trois mois plus tôt, rencontrer secrètement à Tripoli, de nouveau, Abdallah Senoussi. Et ce jour-là, d'après deux des trois personnes présentes dans la pièce, il est discuté cette fois du financement de l'équipe Sarkozy par la Libye de Kadhafi à l'occasion de l'élection présidentielle de 2007.
Premier à être interrogé par la présidente du tribunal sur son voyage à Tripoli, Claude Guéant, 80 ans. Le visage fatigué, la silhouette amaigrie, il peine à fournir des explications tangibles. Oui, il a bien voyagé en Libye le 30 septembre 2005 pour préparer la visite officielle de son ministre, quelques jours plus tard. Était-ce habituel? Non, c'est la seule fois qu'il effectue une mission de ce type. Maintient-il, malgré les preuves d'un rendez-vous préparé par Takieddine, qu'il ne savait pas qu'il allait rencontrer les terroristes? Oui. Pourquoi n'a-t-il pas quitté les lieux? Pour ne pas provoquer d'esclandre. Enfin, a-t-il prévenu son supérieur d'une rencontre potentiellement embarrassante? Non. Par peur d'avouer à son ministre qu'il s'est fait berner. Sous les yeux d'un Nicolas Sarkozy visiblement crispé de voir que le dossier n'est finalement pas si vite que ça, Guéant s'embourbe encore un peu plus quand la présidente lui demande s'il continue à fréquenter Takieddine après ce qu'il qualifie lui-même de traquenard. Guéant se montre hésitant. Il sait qu'il y a des preuves selon lesquelles les liens perdurent, alors oui, il concède l'avoir revu à plusieurs reprises. Quelques jours plus tard, c'est Brice Hortefeux qui doit s'expliquer sur sa visite à Tripoli en décembre 2005. Déjà longuement interrogé sur les liens entretenus durant des années avec Takieddine, photos de vacances de la famille Hortefeux sur le yacht de l'intermédiaire à l'appui, celui que Nicolas Sarkozy qualifie de frère est tout aussi mal à l'aise. Comme Claude Guéant, il parle d'un guet-apens survenu cette fois lors d'un dîner officiel, d'une exfiltration dans une berline. Mécaniquement, presque comme un robot, l'ancien ministre de l'Intérieur répète ses éléments de langage et peine à convaincre l'audience. Interrogé sur les déclarations de ses co-accusés, Nicolas Sarkozy tient sa stratégie de défense et se désolidarise. Non, il ne savait rien des rencontres avec Senoussi, qu'il a d'ailleurs découvertes dans le dossier. Il enfonce même Guéant et Hortefeux, qu'il qualifie de naïfs, et regrette un manque de lucidité dont lui aurait sans doute fait preuve. Mais quoi qu'il en dise, l'ancien président de la République sait que l'examen de ses rendez-vous secrets par la justice n'est qu'un début.
Au début, c'était le début. Ce fut la suite. Le bois et le couteau. sécher la route. Les murs sont tachés, la porte est arrachée. Les nuits sont des nuits d'amour, dur à digérer. Un séjour sans secours, au sommet d'une tour penchée. La tranquillité, la journée, le phono abandonné. Je te garde beauté. Dans l'aridité, je te garde beauté. Pousse ton bras que je m'allonge. La journée m'a tué. La journée m'a tué.
Vous écoutez Affaires Sensibles sur France Inter. Aujourd'hui, financement libyen, le procès Sarkozy.
Affaires Sensibles. Fabrice Drouel.
Qualifié de point zéro de l'affaire, les rencontres secrètes entre les deux proches de Nicolas Sarkozy et le Libyen Abdallah Senoussi sont suivies de contreparties. C'est en tout cas ce que semble démontrer l'enquête. Et la première de ces contreparties concerne directement le terroriste libyen. Dès les premières rencontres, la situation judiciaire de celui qui est alors numéro 2 du régime de Kadhafi est soulevée. Condamné à la perpétuité par la justice française pour son rôle dans l'attentat du DC-10, qui a coûté la vie, rappelons-le, à 54 ressortissants français en 1989, il sollicite l'aide du clan Sarkozy pour obtenir une révision de sa situation. C'est d'ailleurs pour évoquer le mandat d'arrêt qui pèse sur lui que Thierry Herzog, l'ami et futur avocat personnel de Nicolas Sarkozy, se rend lui aussi à Tripoli en novembre 2005. Une rencontre avec Senoussi et ses avocats libyens, au terme de laquelle le terroriste confie un mandat à Thierry Herzog pour le représenter en France. Force est de reconnaître que la question a été abordée lors du rendez-vous. Claude Guéant confirme s'être renseigné à son retour à Paris. Il admet aussi que la question est restée sur le tapis durant plusieurs années, l'enquête ayant retrouvé la trace d'une réunion à ce sujet tenue à l'Élysée en 2009 en compagnie de Ziad Takieddine. Et les contreparties ne se limitent pas à la résolution de la situation judiciaire de Senoussi. Fin janvier, le tribunal se penche sur les velléités de l'Élysée concernant la vente d'un réacteur nucléaire à Tripoli. Une assistance détaillée à la barre par l'ex-patronne d'Areva, Anne Auvergeon, qui parle des demandes répétées de Claude Guéant de faire avancer le dossier. Nicolas Sarkozy balaye d'un revers de manche les accusations d'une socialiste sans influence, dit-il. Lui parle d'une manœuvre diplomatique, une promesse creuse pour donner du contenu aux visites. Puis c'est avec prudence et sans remettre en question la conduite de la politique étrangère française que la présidente du tribunal se penche sur un événement qui a marqué le début du quinquennat de Nicolas Sarkozy, la visite officielle de Kadhafi à Paris.
34 ans que le colonel Kadhafi n'avait pas été accueilli en visite officielle en France. À l'hôtel de Marigny flotte déjà le drapeau libyen. Une troupe de danseuses et de chanteurs bédouins y prend ses quartiers, sous l'œil médusé de la sécurité présidentielle. La garde républicaine accueille Muammar Kadhafi au palais de l'Élysée. L'ancienne bête noire des Occidentaux, commanditaire d'actes terroristes, a désormais droit aux honneurs de la République.
C'est bien beau les leçons de droits de l'homme et les postures entre le café Flore et le Zénith. Et j'ai dit au président Kadhafi combien il fallait continuer à progresser sur le chemin des droits de l'homme.
Des contrats signés d'une valeur de 10 milliards d'euros, dont la livraison d'un réacteur nucléaire pour une usine de dessalement d'eau de mer.
Dans la salle d'audience, les familles des victimes de l'attentat du DC-10 du Théâtre, partie civile au procès, ont déjà rappelé, non sans ironie, l'indignité qu'avait été la visite de Kadhafi dans la capitale française et ce grotesque camping à l'Élysée. Pour un président qui affirmait en campagne, quelques mois plus tôt, qu'il ne verserait pas dans la réelle politique et qu'il ne renoncerait jamais à ses valeurs pour des contrats, le revirement est spectaculaire. à la barre. Nicolas Sarkozy tempère et donne sa vision de l'événement. Il y voit d'abord un prolongement de la politique arabe de son prédécesseur. Il rappelle aussi la rocambolesque libération des infirmières bulgares et semble placer cette visite comme un douloureux mais nécessaire retour d'ascenseur. En réponse aux questions des procureurs, il minimise l'importance de l'événement. Ce n'était qu'une visite officielle, pas une visite d'État, plus importante d'un point de vue protocolaire. D'ailleurs, le Libyen n'a pas eu droit à un dîner en smoking, ni à une descente des Champs-Élysées. Mais il a pu planter sa tente dans les jardins de la République. De toute façon, la participation de la France à la réhabilitation de cette dictature sanguinaire libyenne reste une tâche indélébile sur le quinquennat de Nicolas Sarkozy. Mi-février 2025, alors que l'ancien président de la République porte désormais un bracelet électronique à la cheville, en application de sa peine dans le procès des écoutes, le tribunal se plonge dans une rocambolesque affaire de barbouzerie. Il est alors question de l'exfiltration de Béchir Saleh, l'ancien directeur de cabinet de Mouammar Kadhafi et grand argentier du régime libyen. Un épisode que racontent Fabrice Arfi et Karl Laske dans le documentaire de Mediapart consacré à l'affaire.
Pendant la guerre en Libye, Béchir Saleh est arrêté par les rebelles libyens. Il doit être jugé parce qu'il est accusé d'un certain nombre de crimes et délits, notamment d'avoir détourné et corrompu l'argent libyen. Et alors qu'il est entre les mains du nouveau pouvoir libyen, la France et ses services secrets, la DGSE, vont organiser son exfiltration. C'est-à-dire qu'on va le substituer, le soustraire aux autorités libyennes que nous avons mis en place pour lui permettre d'échapper à la justice de son pays et d'arriver en France.
Où il sera accueilli par le clan Sarkozy, en ce sens que il aura un permis de séjour provisoire et il sera mis à l'abri en attendant que tout s'arrange.
Une opération qui aurait dû rester secrète. Mais un an plus tard, dans l'entre-deux-tours de la campagne présidentielle, la presse découvre la présence en France de celui qui est alors visé par un mandat d'arrêt international. Le dignitaire libyen, qui avait d'abord démenti le versement de fonds de son pays en faveur de Nicolas Sarkozy, est une nouvelle fois exfiltré à bord d'un jet privé en direction du Niger. Une seconde exfiltration orchestrée par deux hommes, Bernard Squarcini et Alexandre Djouri. Le premier est directeur de la DCRI, les renseignements intérieurs, nommé par le président de la République en 2008. Le second est un intermédiaire occulte proche du Libyen qu'il qualifie de frère. Personnalité exubérante, issu du milieu parisien, Alexandre Djouri fraye depuis des années dans l'ombre de la droite française. Proche de Nicolas Sarkozy, qu'il tutoie, il est habitué de l'Élysée où il se rend à de nombreuses reprises durant le quinquennat entre 2007 et 2012. Depuis le début du procès, Djouri se fait remarquer par ses outrances. Schumann, il s'étonne quand le tribunal interroge sur ses liens avec Claude Guéant. Et il s'indigne quand on lui reproche d'avoir offert une montre à 11 000 euros à celui qui était alors directeur du cabinet du ministre Sarkozy. Encore une fois, Nicolas Sarkozy reste droit dans ses bottes. Il n'a rien à voir avec cette histoire. Il affirme que sa préoccupation du moment n'était pas la présence sur le territoire d'un dignitaire libyen, mais bien de savoir s'il allait pleuvoir lors de son meeting de campagne au Trocadéro. Et puis d'ailleurs, il affirme ne pas connaître personnellement Béchir Saleh. En fuite en Afrique du Sud, le Libyen est avec Ziad Takieddine, l'autre grand absent du procès. Dommage, car l'ancien bras droit de Kadhafi est le détenteur des secrets financiers du régime libyen. Et alors que débute l'ultime phase du procès, c'est bien d'argent dont il est question.
J'ai conduit la coalition internationale contre le régime de Kadhafi. L'intervention a commencé en mars 2011. Monsieur Kadhafi est mort en octobre 2011. Il avait donc 7 mois pour mettre sur la table les documents, les photos, les transferts, les sociétés, s'il y avait eu 1 centime de financement. Comment se fait-il qu'il n'a rien fait ? Il n'y a pas un document, pas une photo, pas un compte, pas une preuve matérielle. Il n'y a que la haine, la boue, la médiocrité, la malveillance et la calomnie.
Nicolas Sarkozy le clame haut et fort depuis des années. Il n'y a pas de traces d'argent libyen dans sa campagne ni dans son patrimoine. Sur ce second point, le patrimoine, l'instruction lui donne raison. En revanche, concernant la campagne, c'est une autre histoire. Invité à témoigner à la barre, le commandant de police Frédéric Vidal raconte une enquête longue et fastidieuse. En étudiant les relevés bancaires des employés, il découvre que d'importantes sommes ont été distribuées en cash, notamment à la fin de la campagne. On parle alors de billets de 100, 200 ou 500 euros. En recoupant les informations, l'enquêteur estime qu'environ 250 000 euros ont été distribués dans les dernières heures de la conquête du pouvoir de Nicolas Sarkozy. Une somme qui témoigne de la quantité d'espèces qui a circulé dans les mois qui ont précédé l'élection. Prévenu lui aussi, Éric Woerth, ancien ministre du budget et trésorier de la campagne de 2007, est interrogé par le tribunal. Il peine à fournir des explications convaincantes. Il parle d'abord de 30 000 euros au total, sans pouvoir apporter de preuves, et il évoque des enveloppes arrivées anonymement au QG de campagne. Il dit également avoir distribué cet argent aux employés à défaut de savoir qu'en faire. Puis c'est Claude Guéant qui est interpellé par la présidente concernant un coffre-fort ouvert dans une agence bancaire parisienne. Un coffre, ou plutôt une chambre forte, dans laquelle on peut entrer à plusieurs, précise l'enquête. Encore une fois, Claude Guéant semble fébrile. Il explique y avoir entreposé des documents, notamment des discours du candidat. Quand on lui lit le témoignage d'un employé de la banque, qui se souvient de la livraison d'un impressionnant carton solidement emballé, il ne se souvient de rien. Comme depuis le début du procès, Nicolas Sarkozy se désolidarise de ses co-accusés. Il affirme n'avoir rien su du coffre et avoir découvert la circulation de l'argent liquide en lisant le dossier d'instruction, figurez-vous. Mais les enquêteurs ne se limitent pas à fournir la preuve de la circulation d'argent. Ils sont aussi parvenus à mettre au jour sa provenance.
On s'interroge. Est-ce que vous êtes un manipulateur, un mythomane, prêt à tout par rancune? Je vous pose la question franchement. Franchement? Vous ne me répondez pas?
Je vous réponds. Je suis ni mythomane, ni politique, ni qu'est-ce que vous avez dit d'autre?
Manipulateur.
Manipulateur.
Et rancunier.
Ni rancunier. Pas du tout. Pourquoi voulez-vous que je sois rancunier? J'agis pour le compte. J'agis dans l'intérêt d'une population française.
Est-ce que de l'argent a été versé?
Oui.
Par qui?
Par les autorités libyennes, notamment Mohamed Kadhafi.
À qui?
À Nicolas Sarkozy et Claude Guéant.
Directement?
Directement.
Comment?
À part des transferts bancaires et par du cash.
Cette déclaration de Takidine en avril 2013 sur BFM TV intervient quelques jours seulement après l'ouverture de l'enquête par la justice. Si depuis le sulfureux intermédiaire a fui la France et opéré un spectaculaire changement de version, les enquêteurs ont tout de même réussi à retrouver la trace de mouvements financiers émanant toutes de lui. Un premier de 3 millions d'euros effectué en janvier 2006, quelques semaines après la rencontre secrète entre Brice Hortefeux et Abdallah Senoussi. Émis par le trésor public libyen, il a pour destinataire le compte bancaire de Rosfield Ltd, une société offshore domiciliée dans les îles Vierges et appartenant à Takieddine. L'enquête établit ensuite que cette même société effectue quelques jours plus tard un versement de 440 000 euros en faveur d'un compte appartenant à Thierry Gobert, un proche de Nicolas Sarkozy. Comme durant l'instruction, cet autre prévenu également intime de Brice Hortefeux fournit des explications extravagantes. Il évoque une opération financière liée à une villa en Colombie. Et quand la présidente du tribunal lui soumet ses propres agendas, avec la mention NS Campagne, à la date du virement, il hésite. S minuscule, ce n'est pas pour Sarkozy, et Campagne, ça peut vouloir dire plein de choses. Les enquêteurs découvrent également des retraits en liquide effectués par Ziad Takieddine, dont un de 1 million et 200 000 euros. Une opération inhabituelle, qui ne correspond pas au train de vie de l'intermédiaire. Enfin, la trace d'un second versement de 2 millions d'euros émis en novembre 2006 par les services d'Abdallah Senoussi est également retrouvée sur les relevés de Rosfield Ltd. Des montants et des émetteurs confirmés par des écrits retrouvés dans les carnets d'un certain Choukri Ghanem, ancien ministre du pétrole en Libye.
On en sait un peu plus sur la mort de l'ancien ministre libyen du pétrole. Choukri Ghanem a été retrouvé hier matin dans le Danube à Vienne.
Et selon les premiers résultats de l'autopsie, Choukri Ghanem s'est noyé tout seul. La piste criminelle semble écartée pour le moment par la police autrichienne. À Vienne, les précisions de Blaise Gauquelin.
L'autopsie révèle que Choukri Ghanem est mort noyé. Il a quitté son appartement dans la nuit de samedi à dimanche sans que sa fille, avec qui il vit, ne s'en rende compte. A priori, la thèse d'une crise cardiaque est écartée pour l'instant l'hypothèse de l'implication d'une tierce personne aussi, mais il n'y a pas de témoin direct du drame, donc la police lance un appel. Elle recherche notamment un journaliste étranger qui avait raconté dans un premier temps à la presse autrichienne que Choukri Ghanem était mort chez lui, d'une crise cardiaque. Blaise Gauquelin, Vienne, RFI.
Découverts après la mort suspecte du dignitaire libyen, ces carnets authentifiés par plusieurs pays contiennent des notes écrites en 2007 après une réunion avec Béchir Saleh. Il y consigne les montants versés au clan Sarkozy. Ils sont identiques à ceux retrouvés sur les comptes de Rosfeld. Mais l'enquête ne s'arrête pas là, car ces virements ne sont pas les seules traces d'opérations suspectes dans l'entourage de l'ancien président. Il y a aussi les 500 000 euros perçus par Claude Guéant quelques semaines après la venue de Kadhafi à Paris. Une somme utilisée pour l'achat d'un appartement et que l'ancien secrétaire général de l'Élysée a maladroitement justifié par la vente de mystérieux tableaux flamands. Il y a enfin les opérations bancaires opaques réalisées par Alexandre Djouri, notamment concernant la vente d'une villa à Mougins appartenant à Béchir Saleh. Face à ces informations, Nicolas Sarkozy reconnaît pour la première fois qu'il y a bien des indices graves, mais ils ne sont pas concordants, clame-t-il. Devant ces preuves, l'ancien président a fait sienne la défense de ses co-accusés. Selon eux, les Libyens ont cru financer la campagne, mais Takieddine a tout gardé pour lui. Un argument qui intervient alors que se profile la 11e semaine d'audience et que les trois procureurs s'apprêtent à livrer leur réquisition.
7 ans de prison requis contre Nicolas Sarkozy dans l'affaire du financement libyen de sa campagne en 2007. Le parquet national financier estime que l'ex-président a bien établi un pacte de corruption avec le dictateur libyen Muammar Kadhafi. En complément de cette peine, 300 000 euros d'amende, 5 ans d'inéligibilité et d'interdiction de siéger dans une juridiction. Au Conseil constitutionnel, par exemple, Nicolas Sarkozy continue de clamer son innocence et écrit dans un communiqué qu'il se battra pied à pied pour la vérité.
En 3 jours de réquisition, les procureurs du PNF déroulent à nouveau le fil de cette invraisemblable affaire de corruption. Ils dénoncent ainsi un pacte inconcevable, inouï, indécent avec le régime libyen du sanguinaire Kadhafi. Ils détaillent une corruption de haute intensité, je cite, attisée par l'ambition, la soif du pouvoir, la cupidité et qui a tissé sa toile jusqu'aux plus hautes sphères de l'État. Une charge sans concession, au terme de laquelle le parquet requiert donc 7 ans de prison ferme à l'encontre de l'ancien président de la République. 6 ans pour son ancien bras droit, Claude Guéant, et 3 pour son ami toujours, Brice Hortefeux. Concernant Ziad Takieddine et Alexandre Djouri, le parquet demande 5 et 4 ans de prison. Le 25 septembre dernier, la présidente du tribunal prononce le verdict. Relaxé concernant les faits de financement illicite de campagne, de corruption et de détournement de fonds publics, l'ancien président de la République est en revanche reconnu coupable d'association de malfaiteurs et condamné donc à 5 ans de prison ferme avec mandat de dépôt différé. S'il est désormais derrière les barreaux, il a annoncé faire appel de cette décision exécutoire. Reconnu coupable de corruption, Claude Guéant, tout comme Alexandre Djouri, écope, eux, de 6 ans de prison. Brice Hortefeux est condamné à une peine de 2 ans. Parmi les principaux accusés, seul Takieddine, décédé, échappe à toute condamnation. Car en France, on ne condamne pas les morts.
France Inter. Affaire sensible. Fabrice Drouel.
Aujourd'hui, le procès Sarkozy dont nous parlons avec notre invité Fabrice Arfi. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes avec votre confrère Karl Laske à l'origine des premières découvertes de cette affaire. Et vous avez couvert les 12 semaines de ce procès historique. Je disais tout à l'heure, sans fiel aucun, ils ont couvert le procès contrairement à d'autres journalistes. Alors bien sûr, il y a eu beaucoup de monde le jour où Sarkozy est arrivé, puis après, ils sont partis, c'est ça ?
Oui, c'est vrai que c'est. On peut considérer que, vu l'intrigue judiciaire que vous avez parfaitement résumée, qu'on était confronté, et on le savait, à probablement le plus grand procès d'atteinte à la probité que la Ve République, au moins, n'ait jamais connu, avec sur le banc des prévenus un ancien président, 3 anciens ministres. Et pourtant, nous avons été une petite dizaine de journalistes, tous de la presse écrite à suivre l'intégralité des 38 demi-journées d'audience. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu une télé qui a suivi l'intégralité du procès. Alors que pour un procès d'assassinat, par exemple, récemment, le procès Cédric Jubilard, bon, bah, les télés étaient là, on était à peu près tous au courant quand on regardait le journal de 20h que le téléphone de l'amant avait peut-être borné ici, en fait non, il n'avait pas borné là, et c'est très bien, c'est intéressant.
Ça veut peut-être dire, et c'est culturel hein, en France, qu'un ancien président est toujours plus ou moins protégé par une espèce de cordon, comme ça, de protection.
Je pense qu'il y a une faillite culturelle française et donc aussi médiatique de ne pas vouloir prendre au sérieux les grandes affaires de corruption et d'atteinte à la probité. Voilà. Comme si c'était que des petits faits divers, plus ou moins spectaculaires, avec des gens importants qui s'en sortent ou qui s'en sortent pas, et que ça ne raconte pas quelque chose au-delà des faits et des personnes, d'extrêmement profond sur une tragédie qui corrode l'esprit même de la République et de la démocratie. C'est ça, les atteintes à la probité. En fait, l'affaire des financements libyens, pour moi, porte à un point d'incandescence jamais atteint dans le débat public. La question, c'est celle de l'égalité devant la loi, oui ou non. Et bien sûr que voir un ancien président derrière les barreaux, c'est symboliquement violent. Mais il y a 80 000 personnes derrière les barreaux. Pour que celles et ceux qui nous écoutent comprennent, Nicolas Sarkozy est traité comme plus de 90% des personnes dans son cas. C'est-à-dire que la statistique judiciaire nous dit que 90% des personnes condamnées à une peine supérieure à 2 ans de prison ferme connaissent l'exécution immédiate de la peine, donc vont en prison même s'ils ont fait appel et même s'ils redeviennent présumés innocents. Et l'exécution provisoire est un débat légitime pour toutes les décisions de justice, mais pas que quand c'est Sarkozy qui est concerné. Et ça, c'est un très bon débat sur l'égalité devant la loi.
Alors, on s'abrite, selon certains arguments, sur le fait qu'il est scandaleux de penser qu'il pourrait porter préjudice à l'ordre public, c'est pas un délinquant. Mais c'est pas pour ça qu'il est en prison, c'est pour la gravité des faits, me semble-t-il.
Absolument. La raison pour laquelle le tribunal de Paris a demandé l'exécution immédiate de la peine, donc de l'incarcération de Nicolas Sarkozy, le critère, c'est celui de la gravité des faits, et y compris de l'attitude du prévenu, y compris pendant le procès. La gravité, le tribunal correctionnel de Paris a dit qu'elle était exceptionnelle. C'est écrit noir sur blanc dans le jugement, et pour cause. Vous l'avez bien dit, Nicolas Sarkozy est condamné avec ses deux plus proches soutiens qui sont une sorte de prolongation juridique de Nicolas Sarkozy dans cette histoire. Brice Hortefeux d'un côté et son directeur de cabinet Claude Guéant de l'autre, pour avoir négocié à l'automne 2005 à Tripoli avec un terroriste numéro 2 du régime libyen définitivement condamné pour terrorisme en France, qui a tué 170 personnes, dont 54 Françaises et Français, en faisant sauter un avion de ligne à la fin des années 80 au-dessus du désert du Ténéré, au Niger. Avec cet homme, a été négocié, d'après le tribunal, un pacte de corruption qui est établi d'après le tribunal, dont le but de ce pacte de corruption, c'était le financement de la campagne de Nicolas Sarkozy. Si ça, on ne considère pas que c'est d'une gravité exceptionnelle, alors qu'est-ce qui est d'une gravité exceptionnelle? Et en plus, la présidente et les membres du tribunal ont bien expliqué que Nicolas Sarkozy, pendant les débats, a donné l'impression de ne pas comprendre ce qu'on lui reprochait.
Justement, c'est quoi cette stratégie de défense qui consiste à dire, pour Sarkozy et ses avocats, c'est pas moi, c'est eux?
Voir l'ancien président, pardon de l'expression, jeté sous le bus, ses deux principaux collaborateurs, pour dire ils ont peut-être fait n'importe quoi, mais moi j'y suis pour rien, ça ne donne qu'une impression, c'est qu'il ne fait que renforcer l'idée qu'il est bien le chef d'une association dont il dément l'existence. Donc c'est une stratégie qui peut-être peut marcher pour le 20h d'une grande chaîne, qui peut-être peut marcher pour une estrade publique, pour un meeting politique. Je ne suis pas sûr que pour une enceinte judiciaire, ça fonctionne.
Que peut-il espérer de l'appel quand on sait à quel point la justice a soulevé des éléments de preuve matérielle?
Oui, contrairement à ce qui est raconté, rabâché, y compris par certains soutiens médiatiques de Nicolas Sarkozy, on a des virements bancaires, on a des sorties d'espèces, on a des caps diplomatiques, on a des notes privées, on a des agendas manuscrits. Enfin, c'est absolument considérable ce qu'on peut avoir dans ce dossier. En appel, Nicolas Sarkozy, il peut tout à fait être relaxé, évidemment, et sortir innocent du procès, mais il peut aussi voir sa peine confirmée, voire être aggravé.
Oui,
parce que le tribunal dit bien, de Paris qui l'a condamné, dit bien qu'il y a un pacte de corruption. Mais pourtant, Nicolas Sarkozy est relaxé du délit de corruption. Alors c'est vrai, vu de l'extérieur, on se dit c'est parce qu'il n'y a pas assez de choses. Le tribunal dit il est relaxé, et là on va faire un tout petit peu de droit, parce que Nicolas Sarkozy, quand il négocie au travers de Claude Guéant et Brice Hortefeux le pacte de corruption en 2005, il n'est pas dépositaire de l'autorité publique. Le tribunal nous dit il ne négocie pas en tant que ministre de l'Intérieur, là on est dépositaire de l'autorité publique, il négocie en tant que candidat. Et le tribunal nous dit, nous n'avons pas de preuves qu'il honore le pacte de corruption qui pourtant existe en 2005. C'est la raison de la relaxe pour corruption. Ça va être âprement débattu au procès en appel. C'est pareil pour le financement illégal de campagne. On dit, il était relaxé, donc il n'y a pas de financement illégal. Mais le tribunal dit l'inverse. Le tribunal dit, il y a bien des espèces illégales qui ont circulé pendant la campagne, mais nous n'avons pas la preuve directe que Nicolas Sarkozy savait pour la circulation des espèces. Donc vous voyez, quand on rentre dans le détail, c'est plus compliqué que les éléments de langage qu'on peut entendre parfois dans les médias.
France Inter. Affaires sensibles.
Le procès Sarkozy. Notre invité, Fabrice Arfi, journaliste à Mediapart. Vous êtes avec votre confrère Karl Laske à l'origine des premières découvertes de cette affaire. Quels ont été, selon vous, les moments les plus marquants de ces 12 semaines de procès que vous avez suivis, vous ?
Moi, il y en a un que je dis toujours, c'est quand les familles de victimes, 11 membres des familles du victime du décédis UTA qui se sont constitués partie civile, sont venus témoigner à la barre pour raconter ce qu'était leur chagrin républicain, pas simplement leur chagrin intime, leur chagrin républicain, d'abord de voir le tapis rouge qu'on a déroulé à l'assassin de leur famille, à savoir Muammar Kadhafi en décembre de 2007. Je veux dire que bien sûr d'autres pays ont accueilli Kadhafi quand il est revenu dans le Concert des Nations, mais la France, c'est pas n'importe qui. La France, c'est le pays victime du terrorisme Kadhafi. C'est le pays de la déclaration des droits de l'homme. Et ouvrir les portes de la République, comme Nicolas Sarkozy l'a fait, a été une sorte de coup de poignard républicain pour les familles de victimes. C'est ce qu'elles ont expliqué à la barre du tribunal, mais en plus, quand elle découvre que l'équipe Sarkozy négocie en secret à Tripoli avec l'homme qui a organisé l'attentat, qui a été condamné par la France pour terrorisme, à savoir Abdallah Senoussi, dont vous avez parlé, et qu'en contrepartie des négociations au cœur du pacte corruptif qui englobe l'association de malfaiteurs pour laquelle Nicolas Sarkozy a été condamné, il y avait pour la partie française, de promettre de regarder la situation pénale, d'examiner la situation pénale d'Abdallah Senoussi en France, ce qui a été fait. C'était un témoignage bouleversant. Bouleversant parce que, d'une certaine manière, ces familles de victimes sont venues avec leur cortège de fantômes, avec leur mort dans la salle d'audience, et paradoxalement ont amené la vie dans cette salle d'audience, à quelques centimètres des prévenus, un ancien président, deux anciens ministres de l'Intérieur, qui, eux, étaient éléments de langage, stratégie de défense.
Froideur.
Mais le choc de ces deux réalités était un moment très fort. Un autre moment très fort, et vous l'avez un peu évoqué pendant le récit, c'est la défense que va adopter Brice Hortefeux et Claude Guéant en disant « Oui, les Libyens ont cru financer la campagne ». Parce qu'il ne faut jamais cesser de le dire. Le tribunal l'a écrit, le régime Kadhafi a versé 6,5 millions d'euros pour financer la campagne. Quand Nicolas Sarkozy dit « il n'y a pas un centime », il y a 6,5 millions d'euros d'après le tribunal qui ont effectivement été versés pour financer la campagne, et on en a retrouvé les traces bancaires. Eh bien, les deux lieutenants de Nicolas Sarkozy disent « oui, les Libyens ont voulu financer la campagne ». Mais alors, ça veut dire que toute la stratégie de défense depuis 15 ans de Nicolas Sarkozy s'effondre. Parce que la défense de Nicolas Sarkozy, c'est de dire que cette affaire libyenne est une fabrication du régime Kadhafi au moment de la guerre en mars 2011 que j'ai décidée et qui va aboutir à la chute du régime et à la mort de Kadhafi. Mais si les Libyens ont versé de l'argent en 2006 pour financer la campagne, ils sont légitimes en mars 2011 à dire on a financé la campagne. Et que Takieddine ait gardé l'argent pour lui ou pas. Ce qui n'est pas le cas, puisque le dossier a montré que, bien sûr, il a gardé de l'argent pour lui. C'est pas un philanthrope, Takieddine, il est rémunéré. Mais que, par ailleurs, il y a des énormes sorties d'espèces. Bon, mais quand bien même, ça change rien au pacte corruptif qui est décrit par le tribunal.
Et auquel cas, que cherchait la Libye auprès de la France ?
La Libye auprès de la France, ça a été très bien raconté et décortiqué pendant le procès. Kadhafi, il comprend qu'avec le 11 septembre 2001, l'effondrement des tours, il ne peut plus rester dans le camp des États qui utilisent le terrorisme le plus sanguinaire pour essayer de faire de la diplomatie et de la politique. Et donc, il a besoin de revenir dans le concert des nations, d'aider un certain nombre de pays occidentaux, les États-Unis notamment, mais pas que, pour redevenir respectable, lui, l'État paria. Eh bien, pour ça, il était prêt à payer beaucoup.
Mais qu'ont-ils dans la tête, nos gouvernants, nos candidats? Parce que c'est pas d'aujourd'hui que certains ont été, et beaucoup même, épinglés pour des financements illicites de campagne. Pourquoi reproduire toujours le même modèle jusqu'au plus grave? Parce que financement libyen d'un pays terroriste...
Là, on rentre dans la psyché du pouvoir.
Mais oui.
Et qu'est-ce qui fait que Claude Guéant, directeur de cabinet, qui a été directeur général de la police nationale, qui va être secrétaire général de l'Élysée, ministre de l'Intérieur, qu'est-ce qui fait qu'il rencontre secrètement un terroriste, dont il sait que c'est un terroriste condamné, dont il sait qu'il ne faut pas le rencontrer, parce que le chef du contre-espionnage français, M. Pierre Bousquet de Florian, l'a raconté en procédure, je les avais prévenus de ne surtout pas rencontrer Abdallah Sinoussi. Qu'est-ce qu'il fait qu'il le rencontre et qu'il offre une version au tribunal pour expliquer ce soi-disant piège qui n'en est pas un, puisque le PNF, le Parquet National Financier, a prouvé matériellement que la rencontre était prévue. Qu'est-ce qu'il fait qui l'offre au tribunal une version qui n'est même pas invraisemblable, qui est irrationnelle? Qu'est-ce qui fait que 3 mois plus tard, le plus proche, le plus intime de Nicolas Sarkozy, Brice Hortefeux, refasse exactement la même rencontre avec le terroriste condamné, nous raconte une histoire, mais à dormir debout, où c'est quasiment, ce que raconte Brice Hortefeux, c'est quasiment qu'il a été pris en otage par les Libyens pour aller rencontrer Sinoussi, il ne savait pas que c'était Sinoussi, et quand il revient en France, il n'en parle à personne. Il n'en parle pas à Nicolas Sarkozy, il ne s'en plaint pas, il n'en parle pas à l'ambassadeur. C'est là aussi, c'est parfaitement irrationnel. Et le point commun de tout ça, c'est quoi? C'est l'agent de corruption Ziad Takieddine. Et après ces rencontres, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des versements d'argent, dont on retrouve la trace, et dont on sait que l'intentionnalité pour financer la campagne est prouvée par les fameux carnets de Choukri Ghanem.
Alors, face à un dossier aussi lourd, que peut espérer Nicolas Sarkozy d'une procédure en appel?
Il peut espérer évidemment d'être relaxé. Et c'est pour ça qu'il est de nouveau présumé innocent parce qu'il a fait appel. Mais il peut aussi craindre
une aggravation
de la peine. Et c'est vrai que, d'une certaine manière, moi je parle, comme on dit ici, avec... ça fait 14 ans qu'on écrit sur cette affaire, hein, Mediapart. On en a fait plus de 200 articles, on en a fait un documentaire que vous avez cité, on en a fait une BD, on a fait un livre. Peut-être qu'un jour, il y aura des mugs et des chaussettes sur cette affaire à Mediapart. Mais j'ai l'impression que, médiatiquement, cette affaire est née avec le jugement. Et donc, peut-être qu'il y aura enfin une immense attention médiatique sur le procès en appel et que chacun pourra voir ce qu'on voit et dire ce qu'ils ont vu.
Merci infiniment.
Merci à vous. Sarfi.
Au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, le procès Sarkozy dans l'affaire Libyenne, une émission que vous pouvez réécouter en podcast, bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Alex Olarewaju Otinois.